Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Jean. Texte de la liturgie catholique romaine pour le dimanche de la Trinité. À l'heure où il va quitter ce monde pour aller vers le Père, Jésus dit à ses disciples :
« Il est avantageux pour vous que je parte. Si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Si je pars, je vous l'enverrai. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand il viendra, lui, l'inspirateur de la vérité, il vous guidera dans la pleine vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura écouté, et il vous annoncera les choses du monde à venir. Lui, il me glorifiera, car il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est mien. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il recevra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu, et vous ne me verrez plus, et encore un peu, et vous me verrez. Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. Fête de la Trinité, que dit-elle à de nombreux chrétiens, sinon le vague souvenir d'une arithmétique où 3 égale 1, ce qui semblait plutôt illogique. 3 personnes, mais un seul Dieu.
Oui, on a cependant fait des progrès depuis le Concile pour redonner une place à l'Esprit divin dans notre prière. Nos frères orthodoxes, en effet, nous reprochait à juste titre de ne pas donner la place nécessaire à l'invocation de l'Esprit, précisément dans la prière eucharistique. Or, les nouvelles prières eucharistiques de la messe ont corrigé cette lacune et elles nous font invoquer plus explicitement l'Esprit Saint.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
Mais il faut quand même avouer que nous avons un peu de peine à bien situer la troisième personne de la Trinité. Le Père est Père, et nous avons une certaine expérience de la paternité. Pour le Fils, eh bien Jésus est une personne terrestre que l'Évangile nous permet de connaître, mais pour l'Esprit. On sait bien que le mot « esprit » dans la langue juive est le même mot que « vent, souffle ». Et on a donc l'image du souffle, le souffle spirituel. Ceux qui pratiquent les techniques où la respiration est liée à la méditation connaissent bien le souffle spirituel, mais ce ne sont pas la majorité des baptisés qui pratiquent ces techniques. Pourtant, ce que nous pouvons comprendre de Dieu est bien souvent lié à notre expérience humaine. Pour la pensée biblique, les gestes du monde invisible, du monde divin, se manifeste en effet par des gestes humains, et ces gestes humains deviennent pour nous des signes, des symboles du monde divin. Que tout devienne sur terre comme au ciel. Que le divin s'unisse à l'humain. Par exemple, le pardon entre humains doit être signe du Dieu qui pardonne. La mort par amour de Jésus doit être signe, symbole, sacrement de l'amour dont Dieu aime les êtres humains. La paternité humaine est un signe qui nous dit que Dieu est Père, comme dans les cieux, qu'il en soit ainsi sur la terre.
Où se situe ce texte?
Eh bien, ce bref passage du récit évangélique de Jean se situe lors du dernier repas de Jésus. On sait que ce récit de Jean consacre 4 chapitres à relater la conversation, l'échange que Jésus a eu avec ses disciples au cours de ce dernier repas. Ces textes, ils sont un peu comme le testament du maître à ses élèves, à ses disciples. Ils seront d'ailleurs désormais ses apôtres, le mot veut dire envoyés, c'est-à-dire ceux qu'il envoie dans le monde, comme Jésus lui-même a été envoyé dans le monde par le Père. Ce testament ne sera pas d'abord un retour sur le passé, mais au contraire, un regard sur ce qui est à venir. Jésus veut réconforter ses disciples et établir le mode de communion qui sera désormais le sien avec eux. Cette parole, elle est donc tout à fait pour nous disciples d'aujourd'hui.
Si je pars, je vous enverrai le paraclet.
Eh bien voilà le cadre de notre texte. Tant que Jésus était présent terrestrement, il était le porte-parole de Dieu parmi les siens. Quand il ne sera plus visiblement présent, c'est le paraclet qui prendra la relève. Qui est donc ce paraclet et quelle expérience Jésus nous fait-il faire de l'Esprit ? Rappelons les paroles de Jésus.
Le paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous fera faire mémoire de tout ce que je vous ai dit.
Le paraclet est donc l'Esprit divin. Que veut dire ce mot de paraclet ? Eh bien, c'est un mot qui est d'origine grecque, parakletos, et qui a été introduit dans la langue araméenne, où il est devenu paraklita. En Israël, paraklita désigne celui qui est appelé pour venir à côté de quelqu'un. Alors, ce peut être un assistant qui vient à vos côtés pour vous aider, ce peut être un avocat qui parle pour vous dans un procès, ce peut être aussi un interprète qui vient à vos côtés pour traduire. Et il semble bien qu'ici, dans ce texte, lorsque Jésus parle de paraclet, c'est qu'il donne à l'Esprit divin ce rôle d'interprète de la parole. Il vous enseignera et vous fera faire mémoire. Mais comment comprendre cela ? Mais il faut se souvenir qu'à l'époque, l'enseignement se fait uniquement oralement. Les livres sont très rares et ils sont volumineux. Les livres rouleaux qui contiennent les textes sacrés se trouvaient à la synagogue, à la maison de prière des Juifs, mais ils n'étaient pas dans chaque maison. De plus, dans ces livres rouleaux, il y avait seulement les consonnes des mots qui étaient écrites. On n'écrivait pas les voyelles. Alors imaginons un livre où l'on ne mettrait que les consonnes des mots. Par exemple, les deux consonnes MR pourraient aussi bien signifier les mots amer, amour, aimer, mais aussi émir, émerie, etc. Alors il fallait donc savoir ce que le livre dit pour mettre les bonnes voyelles entre les consonnes. Ce n'est que plus tard, d'ailleurs, qu'on ajoutera les voyelles dans les rouleaux, mais on les mettra alors en dessous des lignes puisqu'il n'y a pas de place pour les mettre entre chaque consonne. Les lecteurs à la synagogue devaient donc être des gens qui connaissaient par cœur les textes. Le rouleau servait simplement d'aide mémoire. Et on se transmettait ce savoir oral, ce savoir sur les livres bibliques, de génération en génération. Si de nos jours, c'est la télévision qui est comme l'école principale, au temps de Jésus, c'est par l'écoute qu'on apprend. On apprend par cœur des choses qui nous sont dites oralement. Et si on ne les retient pas par cœur, on n'a pratiquement aucun moyen de les connaître, de les savoir. Pour tenter de comprendre cela, on peut penser à la façon dont se fait encore aujourd'hui la transmission des chansons, surtout les vieilles chansons folkloriques. Peu d'entre nous ont lu les paroles de ces chansons, et cependant, ils les connaissent parce qu'ils les ont écoutées et surtout parce qu'ils les ont chantées. En effet, la musique nous aide à retenir les paroles. Il faut ajouter qu'à l'époque de Jésus, les livres étaient en hébreu, et peu de monde connaissait l'hébreu, puisqu'on parlait l'araméen, qui est une langue voisine de l'hébreu. À la synagogue, on avait donc besoin d'avoir un traducteur, un interprète, qui fasse le passage de l'hébreu à l'araméen. Eh bien, cet interprète de la synagogue était précisément appelé un paraclet. Au temps de Jésus, il y avait plusieurs lieux où se faisait l'apprentissage de la parole de Dieu.
Le premier lieu d'enseignement était la maison familiale.
En effet, le père de famille, avait la tâche de transmettre la parole sacrée de la Bible. Il transmettait d'ailleurs ce que son propre père lui avait enseigné. Dans cette culture du peuple de la Bible, on est père pas seulement parce qu'on a engendré physiquement, mais principalement parce qu'on engendre au plan du savoir, au plan des connaissances. Ainsi, c'est le plus souvent le père qui apprend son propre métier à son fils. On est par exemple charpentier de père en fils dans une même famille. Mais surtout, le père transmet une sagesse de vie, la tradition de son peuple sur Dieu. Il faut que nous prenions bien conscience de cela. À cette époque, on ne peut pas apprendre par soi-même, moyen de livres, de cassettes, d'ordinateurs. Il faut avoir recours à quelqu'un, quelqu'un qui va nous transmettre ce qu'il sait. Et il faudra garder toutes les connaissances dans sa propre mémoire, car on ne pourra pas consulter des notes écrites pour réviser ce qu'on a compris. Le père est donc le premier pédagogue, le premier transmetteur du savoir et de la sagesse. On peut imaginer alors quel lien merveilleux peut lier le fils à son père. Lorsque nous entendons Jésus dire « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père », il ne faut sans doute pas comprendre que Jésus est un simple exécutant des volontés du Père. Il faut prendre le mot « obéissance » en son sens premier, qui veut dire « écoute ». Obéir, c'est être à l'écoute de quelqu'un. Cette écoute joue alors le rôle que joue aujourd'hui la lecture pour connaître quelque chose. Ou le rôle du visionnement lorsque le savoir passe par la télévision ou par Internet. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, cette obéissance de Jésus. C'est la manière pour lui d'aller à la source du savoir en étant à l'écoute du Père. La source de ma doctrine, dit Jésus, c'est celui qui m'envoie.
Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît vraiment le Père sinon le Fils.
C'est sans doute à partir de son expérience avec Joseph que Jésus peut décrire son expérience avec le Père divin. Pour Jésus, le Père premier est Dieu, et tous les autres pères ne sont que des relais de l'unique paternité.
Vous n'aurez pas d'autre Père. Vous n'appellerez personne du nom de Père sur la terre, car vous n'avez qu'un Père, celui des cieux.
Si tel est le rôle du Père, quel était le rôle de la Mère dans cet apprentissage de la connaissance? Le jésuite Marcel Jousse la voit, cette mère, comme la répétitrice de ce que le Père a transmis. Elle berce en effet son enfant au son des paroles bibliques, comme nos mères nous berçaient en chantant des chansons de folklore, chansons dont nous allons conserver dans la mémoire les paroles jusqu'à l'heure de notre mort. Évoquons ce souvenir quand le jésuite François-Xavier se mourait en Chine. Le jeune Chinois qui l'assistait a surpris sur ses lèvres des paroles étranges. Eh bien, c'était le parler de son patois maternel. Eh bien, pour Jésus aussi, les évangiles nous donnent son dernier cri, « Eloi, Eloi, lama sabachthani ». Et c'est dans sa langue maternelle, l'araméen. La langue de notre enfance, nous l'appelons en effet notre langue maternelle. Et cela est sans doute symptomatique du rôle de la mère dans l'apprentissage du savoir. Ne serait-ce pas aussi pour dire qu'on commence à apprendre la langue dès le sein maternel? Eh bien, par rapport à Dieu, la mère n'a-t-elle pas aussi le rôle d'être un paraclet qui a accueilli la parole divine et dont le rôle est de la redire, mais de la redire en l'interprétant? La mère n'est-elle pas celle qui va apprendre à méditer la parole, à la ruminer pour l'intérioriser? Ce que l'évangile de Luc nous dit de Marie, qu'elle gardait dans la mémoire du cœur les paroles et les événements qui concernaient Jésus. La mémoire du cœur, c'est la mémoire la plus profonde de notre être, celle où se rejoignent l'intelligence et la volonté, celle qui nous permet d'agir en étant fidèles à ce que nous sommes profondément. Eh bien, donnons quelques exemples. Ainsi, après la visite des bergers.
Tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur.
Et après les retrouvailles de l'enfant Jésus au temple, lors du pèlerinage à Jérusalem, quand Jésus a eu 12 ans.
Sa mère gardait tous ces événements dans son cœur.
Si l'on garde ces paroles imprimées dans la mémoire du cœur, c'est pour les méditer, afin qu'elles deviennent la source, la lumière de notre agir quotidien. C'est ainsi que Dieu demeure en nous et nous en lui, dans une communion de pensée et d'agir. Marie a initié Jésus à cette méditation. Elle s'est fait le relais du souffle inspirateur divin, sur la terre comme au ciel comme sur la terre. Voilà donc, dans l'expérience familiale, une réalité quotidienne qui permettait aux Juifs d'approcher une certaine expérience de Dieu. Dieu comme Père, dont on devient le Fils en apprenant par cœur sa Torah, sa sagesse. Dieu comme la mère paraclée, qui accompagne cet engendrement en expliquant, en interprétant la volonté de Dieu, afin qu'elle inspire notre vie quotidienne pour que notre vie soit une vie de communion avec le Père.
La maison de l'enseignement.
Mais la vie religieuse ne s'arrête pas à la vie familiale. Elle se développe aussi dans la communauté plus large qui est celle du village. Et cette communauté avait sa maison de prière où elle se réunissait et qu'on appelle la synagogue. C'est l'école de la synagogue qui venait compléter le travail d'apprentissage fait à la maison. Le maître, qui va enseigner la Torah, la grande règle de vie donnée par Dieu à Moïse, ce maître est considéré lui aussi comme un père, comme le dit si bien un texte juif.
Qui fait apprendre les leçons de la Torah au fils de son prochain, cela lui est compté comme s'il l'avait engendré.
On apprend le texte en hébreu, en se balançant et en chantonnant, afin de l'enregistrer par cœur dans la mémoire profonde. Mais aussitôt après avoir appris le texte hébraïque, en hébreu, on apprend son interprétation en araméen, et interprétation au double sens du mot interprété, à la fois parce que c'est traduit dans une autre langue, mais aussi parce qu'on en a donné le sens. Lors de la réunion de la synagogue, c'est encore un paraclet qui est l'interprète. Lui-même, d'ailleurs, tient son interprétation d'un autre paraclet, afin que, de tradition en tradition, la parole divine se communique à chaque génération. Qu'elle se communique et qu'elle s'actualise pour être vécue en lien avec la vie quotidienne. À cette époque, où l'on ne peut faire référence à un livre, c'est donc à cet enseigneur qui nous a précédés que l'on se réfère. C'est pourquoi les rabbis, les maîtres de la Torah, font toujours précéder leur enseignement de la fameuse formule « comme l'a dit Rabbi un tel ». Mais Jésus, lui, ne parlera pas au nom d'un autre rabbi. Il ne fera référence qu'à son Père. « Ma leçon évangélique n'est pas de moi, mais de mon Père qui m'envoie, dit-il. Il enseigne au nom de son Père qui est Dieu, qui est aux cieux, et il se présentera toujours comme le porte-parole du Père.
Je dis ce que j'ai vu auprès du Père. Qui me voit, voit le Père. Je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que j'ai à dire et à déclarer. Tout m'a été remis par mon Père. Venez à mon école. »
Aussi, lorsque vient l'heure de son départ, Jésus promet à ses disciples un autre maître, un autre enseigneur. Ce sera l'inspirateur divin, l'esprit de vérité, qui sera le paraclet, l'interprète de la volonté du Père.
« Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas le paraclet. Mais si je m'en vais, le paraclet, je vous enverrai. »
Le travail fait par Jésus auprès des siens, c'est donc le paraclet qui l'achèvera. Le Père et lui enverront l'Esprit pour qu'il parle en leur nom. L'Esprit, l'inspirateur, est donc lui aussi un envoyé. Il vient redire l'Évangile, expliquer le message. Il vient surtout nous faire vivre ce message pour que nous devenions fils et filles du Père. Les disciples ne pouvaient pas encore tout comprendre de ce que Jésus avait à communiquer de la pensée de Dieu. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, dit-il. » Il y a des choses, en effet, qu'on ne peut vraiment comprendre que par l'expérience, c'est-à-dire si on les met en pratique. On ne peut les porter que lorsque ces événements arrivent. Le verbe « porter » employé ici est d'ailleurs le même que celui qui est employé pour dire « porter sa croix ». Et on sait que les disciples ne comprendront vraiment le sens de la croix de Jésus que lorsqu'eux-mêmes vont être affrontés à témoigner de la résurrection, un témoignage qui ira jusqu'au témoignage de la croix, le martyre. Alors, ils recevront l'Esprit, comme le déclare Pierre au jour de Pentecôte.
Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. Exalté à la droite du Père, il a reçu l'Esprit et l'a répandu.
Depuis la résurrection de Jésus, c'est donc l'Esprit qui guide la communauté de ses disciples. Cet Esprit qui les mène vers une compréhension toujours plus grande de Dieu et de la vie du monde à venir, c'est-à-dire de la vie éternelle à laquelle nous sommes promis. Il nous fait entrer dans la communion du Père. L'Esprit nous baptise, nous plonge dans la vie divine. Eh bien voilà des balbutiements sur le Dieu trinitaire, à partir de ce que Jésus a vécu et de ce qu'il nous a transmis. On fait souvent le reproche au christianisme de croire à trois dieux, alors qu'aujourd'hui la majorité des humains qui croient en Dieu admettent que Dieu est unique, qu'il n'y a qu'un créateur. Mais les chrétiens ne croient pas en trois dieux. Nous distinguons dans le Dieu unique trois personnes, Dieu le Père, Jésus le Fils unique, l'Esprit d'amour. Les chrétiens, nous pouvons dire que si Dieu est amour, alors il n'est pas solitaire, il n'est pas l'éternel célibataire des mondes, comme disait Voltaire. C'est parce que Dieu est amour qu'il doit être trinité de personnes. Les chrétiens ne croient pas en un Dieu trinitaire d'abord à partir d'un raisonnement philosophique, mais à partir de cette expérience spirituelle transmise par Jésus, d'une communion d'amour entre lui et son Père.
Le Père et moi, nous sommes un. Je suis dans le Père et le Père est en moi.
Cet esprit du Père est autant esprit du Père que du Fils. Il est autant envoyé par le Père qu'envoyé par le Fils.
Le Paraclet que le Père enverra en mon nom. Je vous enverrai le Paraclet de la part du Père. Quelle expérience humaine et spirituelle pouvons-nous faire aujourd'hui du Paraclet?
Du temps de Jésus, nous l'avons vu, le Paraclet était une personne reconnue dans la communauté juive et qui intervenait tout particulièrement à la synagogue. De plus, le Paraclet pouvait prendre aussi, dans la maison familiale, les traits de la mère. Aujourd'hui, ce rôle d'inspirateur, d'interprète de l'Évangile, de Paraclet, n'est-il pas aussi celui de la mère?
La mère au sein de la famille.
Oui, parce qu'elle est inspiratrice des siens, dans la mesure où elle porte les projets, les besoins, les difficultés de chacun, puisqu'elle a elle-même porté la vie de ses enfants en son sein.
La mère au sein de la société.
Oui, comme inspiratrice de justice et de paix, parce qu'elle est porteuse de communion et d'unité. Bien, donnons quelques exemples. Au Brésil, au temps de la dictature, dans un grand stade, celui de São Paulo, ce sont des mères qui vont s'interposer entre les militaires et les militants qui bravaient l'interdiction de manifester, et elles se sont interposées en venant offrir des roses aux forces de l'ordre, et alors les militaires ont laissé les portes du stade s'ouvrir. En Argentine, sur la place de Mai, on se souvient aussi que ce sont des mères qui ont porté avec une patience ardente la mémoire de tous les disparus. Chez nous, très souvent, ce sont aussi des femmes qui diront l'intolérable de la pauvreté alors que l'action sociale est jugée un peu passée date devant le discours économique du néolibéralisme. Souvenons-nous de la marche du pain et des roses et de la marche mondiale des femmes.
La mère aussi dans la communauté église.
Nous avons en effet des équipes pastorales où des femmes ont leur place comme co-responsables de la communauté à côté du prêtre modérateur. Est-ce que nous ne pouvons pas y voir la complémentarité du prêtre, qui est le signe du Père unique, et de la femme, signe du Paraclet, inspiratrice de la communion, interprète de l'Évangile dans le quotidien de la vie. Voir le Paraclet sous les traits de la femme mère, est-ce que c'est trop dire? Est-ce que c'est mal dire? N'oublions pas que dans le langage de la Bible, l'Esprit se dit « roi », un mot qui est féminin. Puisse le Paraclet nous guider vers une vérité plus grande pour reconnaître le juste rôle de la femme, tant dans la société que dans l'Église. En cette fête de la Trinité, puissions-nous mieux comprendre comment Dieu est tout à la fois Père engendreur, Fils engendré et Paraclet inspiratrice. C'est ensemble que les trois nous engendrent pour faire de nous des fils et filles divins dans une unique famille, une famille Église qui doit témoigner que Dieu a créé l'humanité pour qu'elle partage ce bonheur d'aimer et de ne faire qu'un en la trine unité divine, c'est-à-dire dans la communion de l'amour. Au soir de notre vie terrestre, invités à la table de l'éternité, nous serons éblouis par cette communion, alors que nous reconnaîtrons enfin la sainte communauté d'amour entre Dieu, Trinité et nous, une communion d'amour qui est notre destin éternel.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
514-256-4110. Vous pouvez vous abonner pour 3 mois, 6 mois, au feuillet ou aux cassettes. Téléphonez-nous, nous vous donnerons les tarifs. Vous nous trouverez également sur Internet. Voici l'adresse de notre site www.relaismontroyal.com. Relais Mont-Royal est en un seul mot et sans trait d'union. relaismontroyal.com.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine. Ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.